Merci. Donc le punk il reste presque toujours abordé aujourd'hui sous l'angle d'une sous-culture, forcément transgressive, en opposition ou au moins en dehors des cultures dominantes. Pourtant, le punk reste influent au point de se retrouver dans de nombreux défilés de mode encore aujourd'hui, ou dans d'autres éléments de la culture populaire. Par exemple ici, pris une image de la première comédie musicale punk qui vient de se monter aujourd'hui, cette année à New York, qui s'appelle Pop Punk High. Et aussi Plastic Bertrand, il a prouvé par l'exemple qu'un tube punk pouvait exister, aussi éloigné soit-il de l'original. Donc le punk qui se veut à la base à l'opposé de la musique commerciale, est-ce que ça constitue véritablement un antidote au mainstream? Est-ce que c'est le punk est allergique à la pop? Ou est-ce que ses frontières sont plutôt bien plus floues que ne laissent le croire les oppositions que défendent les acteurs et les actrices de la scène, mais aussi dans de nombreux écrits sur le punk aujourd'hui. Donc cette présentation, comme d'autres de la journée, elle va chercher à interroger les liens qui existent entre la scène punk et le mainstream. Et je vais commencer par définir un peu rapidement ce que c'est ce concept de mainstream, vu que c'est quelque chose d'un peu flou. Et aussi pour voir quels sont voilà, les différents liens entre la scène punk et ce mainstream. Je vais montrer les différentes formes qui peuvent passer soit par des formes de récupération assez primaire, disons, à des reprises plus diffuses. Et j'envisagerai ensuite d'autres formes de réussite dans le punk qui ne passent pas par la marchandisation. Et cette présentation, elle se veut assez théorique parce qu'elle veut en partie une introduction à la journée d'aujourd'hui. Et précisons également que je vais vraiment me focaliser sur plutôt les premières années de la scène punk en France, avec les toutes premières années, et puis un tout petit peu les années 80. Donc si j'ai choisi de m'intéresser au mainstream aujourd'hui, c'est parce que c'est un des sens, pas le seul évidemment, que peut prendre la réussite dans la musique. On pourrait dire que réussir en musique, c'est pour certaines personnes, dans un certain sens, atteindre le mainstream. Donc ce dernier, il pourrait être défini de façon assez simple, quantitativement, disons, qui se mesurerait à la vente du nombre d'albums, mais cette délimitation à la fois simpliste et trompeuse. En effet, il y a des albums punk qui ont pu se vouloir anti-mainstream, mais faire des ventes importantes. On pense bien sûr au Barry Noir avec Concerto pour Détraquer, sorti en 85, qui va être vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ou encore Oulala de Ludwig von 88, qui sont aussi en tout cas une bonne dizaine de milliers d'exemplaires, tandis que des albums conçus pour le mainstream ont été des flops commerciaux. C'est par exemple le cas de Sublime Deluxe qui nous fournit ici un premier exemple de récupération punk par une forme de mainstream, donc qui est vraiment produit dans un des studios les plus réputés de France à ce moment-là, qui est dirigé par Claude Peterflam et puis qui va prendre des musiciens de studio comme réputés comme Jean Schulteis. Donc ça c'est en 79, et je vais vite passer un extrait pour donner un peu une première couleur musicale à cette journée.
On ne croit pas ce qu'on t'a toujours dit, oui que dans notre vie tout est joli, joli. On ne croit pas que tout le monde est gentil, arre, 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 guili, guili, guili. Et si tu crois qu'il est un mariette, ça va, ça va, ça, oui c'est passé comme ça. Ce que tu te plantes, que c'est pas pour du sel, va t'en faire un grand tour, l'amour n'existe pas. Donne-moi ton corps.
Donc on voit déjà un peu des éléments de l'autre tube punk avec voilà, le cri qui devient ici plutôt des chants aigus mais qui sont plus tellement des cris, mais aussi ces paroles volontairement un peu voilà, sans signification. Donc voilà, ici voilà, c'est sorti sur une major et ce sera un flop, donc pour montrer que les choses qui se veulent mainstream ne sont pas forcément des choses qui font des grandes ventes. Donc qu'est-ce qu'alors à ce moment-là, comment définir le mainstream? Est-ce que c'est un type de son? Je pense que pour le définir rapidement ici, on peut dire que ce terme il sert à désigner un mode de production, de diffusion et des acteurs du marché musical. Le mainstream, c'est ce qui est produit pour être diffusé largement dans la société et qui, dans la majorité des cas, est le fait des industries culturelles, à savoir des grands labels, des majors. Donc quand il émerge, le punk semble se positionner en opposition face à ce mainstream. Il multiplie les critiques de la musique commerciale, ainsi pour donner un peu les exemples les plus connus, Patrick Hudlin dans L'Aventure Punk en 77, il critique longuement les groupes comme Genesis et Pink Floyd et la virtuosité musicale que ces formations incarnent. La chanson Get Back de Starshooter, qu'on a souvent passée, elle est sortie elle aussi en 77, elle est aussi consacrée à une critique des Beatles, pour reprendre un petit bout des paroles. On continue de nous faire croire que c'est les meilleurs, c'est de la musique pour supermarché. Donc dans ce titre, qui pastiche le titre des Beatles, il y a à la fois, voilà, les paroles insistent vraiment sur cette critique d'une musique qui appartient au passé, mais aussi sur l'aspect commercial. Donc on touche ici à une définition du punk comme sous-culture. Ce terme qui est associé au punk direct très rapidement par Dick Ebdige, qui désigne des mouvements culturels qui cherchent à casser le consentement pour affirmer des significations prohibées. Donc ici, une petite citation justement d'Ebdige. Donc le style d'une sous-culture donnée est toujours lourd de significations. Ces métamorphoses sont contre-nature. Elles interrompent le processus de normalisation. De ce point de vue, elles sont autant de gestes en direction d'un discours qui scandalise la majorité silencieuse, qui conteste le principe d'unité et de cohésion, qui contredit le mythe du consensus. Donc, cette opposition du consensus, elle s'applique sur la situation sociale, mais aussi, si on revient à la définition qu'on a prise du mainstream, en opposition au code dominant du champ musical et donc voilà, du mainstream. Donc, on peut penser à la critique de la virtuosité musicale qui est remise en cause par le do-it-yourself, au fait que chacun peut devenir musicien, mais c'est aussi plus largement une animosité face aux stars de l'époque et aux industries musicales, comme dans les exemples que j'ai cités. Et à ce titre, je pense qu'il est important de noter qu'à l'époque, la musique était effectivement structurée avec un courant dominant en position de force. L'économie du champ musical, elle se structure vraiment de façon de plus en plus centralisée à ce moment-là, à la fin des années 70. Il faut savoir que voilà, les firmes de moyenne importance, elles gardent un certain poids en France seulement jusque-là, mais elles vont vraiment être totalement dominées à partir de la fin des années 70. Par l'oligarchie autour des grandes majors que sont Barclay, Pathé, Philips et Vogue, qui, par exemple, représentent deux tiers des ventes d'albums, des ventes distribuées en France à ce moment-là. Donc une telle présentation, elle donne l'impression d'un champ de bataille qui est clairement divisé en deux camps bien séparés. D'un côté, les industries culturelles des gros labels, des stars et de la variété, et de l'autre, le punk et ce refus de se conformer. Mais la réalité, elle est bien moins rigide. En fait, les échanges et les transferts sont permanents. Ne serait-ce que comme repoussoir, le mainstream joue un rôle important dans les productions punk. De l'autre côté, le mainstream se nourrit de l'inventivité des sous-cultures. Et ces dernières, elles se construisent non seulement en contradiction, mais aussi dans une intégration parfois minime, mais néanmoins une intégration dans le marché musical. Pour vivre, être mieux distribué, les sous-cultures peuvent vouloir utiliser les outils mis en place par les industries culturelles. Donc si la sous-culture elle représente une déclaration d'indépendance et d'insubordination, son souhait d'autonomie, il côtoie en permanence le risque de la récupération. Et c'est justement sur ce phénomène-là que je vais m'arrêter maintenant. Donc la dynamique la plus évidente des liens entre sous-culture et mainstream, c'est justement celle de la récupération pure. Et elle se comprend du fait du fonctionnement même du marché. L'économiste Jip McGuigan, dans son livre sur le cool capitalisme, il théorise en effet que le capitalisme, qui est devenu incapable de créer des nouvelles valeurs après avoir étendu son marché sur le globe, il doit se tourner vers les cultures émergentes ou subversives pour créer des nouveaux besoins et donc de nouveaux marchés. Et les industries musicales, elles sont en fait demandeuses de nouveautés pour proposer de nouvelles marchandises sur le marché et vont donc chercher à signer des premiers groupes de punk français, en tout cas à ce moment-là. Et cette démarche est de plus facilitée dans les toutes premières années du punk par une scène française qui, dans ces toutes premières années, est assez peu conflictuelle. Au sein des rares fanzines, ou ainsi que dans les paroles des différentes chansons, il est rare de trouver vraiment des références critiques littérales de la société. Les thématiques abordées sont plus généralement volontairement absurdes ou futiles, qu'on pense à Stinky Toys avec des chansons comme Driver Blues ou Burst the Party, ou encore des textes voilà, qui sont plutôt des évocations poétiques de la ville, avec Asphalt Jungle, par exemple son titre Polymagoo, et de même, si on regarde dans les assez rares fanzines qui sont publiées à l'époque, à la fin des années 70, il y a vraiment très peu d'intérêt pour le positionnement politique au sens premier. Par exemple, même Metal Urbain, qui serait un groupe qui appellerait un peu ce genre de questionnement, quand il est interviewé par le fanzine La Punkitude en 78, il n'y aura que des questions qui tourneront à comment, qu'est-ce que le punk, comment vous financez, c'est quoi l'importance de l'image, mais vraiment aucune question qui parle de positionnement social. Alors si les groupes de l'époque, c'est-à-dire les principaux groupes de l'époque, Stinky Toys, Asphalt Jungle, Dogs, ils déploient bel et bien un style nouveau et cherchent chacun à leur manière à détonner via leur habillement, des pochettes de disques ou une façon, un certain son, Ils utilisent très peu de symboles tabous ou de paroles dénonciatrices. Et ils seront presque tous signés sur des majors à un moment. Chez Polydor, il y aura une des signatures de Stinky Toys et Guilty Razors. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est le transfert d'Alpha Jungle en 78, qui était à ce moment-là chez Skydog, qui est donc le label de Mark Zermati, chez qui ils avaient sorti le single Planté comme un privé, qui vont passer à EMI Pathé Marconi pour le single d'après Polymagoo Love Lane, qui traduit vraiment cette logique d'intégration progressive aux industries culturelles. En effet, le registre commercial entre ces deux labels n'est pas du tout le même, entre d'un côté la major qui est EMI, et de l'autre côté Skydog, qui, comme le définissait son fondateur, donc je vais ici le citer, Mark Zermati. Skydog est une compagnie de disques indépendante. Nous n'organisons pas de concerts pour gagner du fric, mais pour promouvoir la nouvelle musique que nous aimons. Une musique radicale qui tourne délibérément le dos au showbiz et au système entier. Donc cette citation, elle montre bel et bien, vraiment elle montre cette volonté d'opposition à ce qui serait le mainstream en musique. Et les Dogs de Rouen, ils suivent un peu la même direction, en passant de Melody Massacre aux Hollandais de Philips en 79, et on peut encore mentionner Starshooter, qui sont aussi chez EMI Pathé Marconi, puis passeront, si je ne me trompe pas, chez CBS, ou encore Bijou, qui est à ce moment-là quand même associé au punk, qui sont aussi chez Philips, et même Little Bulb Story, qui est cher à un de nos chercheurs, ils vont aussi passer temporairement chez RCA. Donc j'ai juste fait un petit image qui montre vraiment cet élan généralisé de ces groupes des toutes premières années du punk en France, qui vont aller soit directement sur les majors, avec les majors avec des filiales françaises importantes en haut, et puis les majors plus internationales à partir de CBS. Et donc et il est symptomatique que le groupe de la première vague punk qui est en France, qui met le plus en avant un registre conflictuel, il était alors signé à l'étranger parce qu'il ne pouvait pas se développer dans des filiales françaises des majors ou des majors internationales ou françaises. Il s'agit évidemment de Metal Urbain qui vraiment lui usait dans les concerts de tout l'imaginaire nazi avec le salut fasciste qui était fait à la fin des concerts, mais aussi les références récurrentes à l'anarchie. Et ben, ils vont signer très rapidement chez Rod Trade après avoir fait un premier enregistrement chez Cobra, et on reviendra sur ce dernier label plus tard. Donc les processus sont bel et bien ceux qui sont observés par Jérôme Guibert dans la production de la musique. On a vraiment des maisons de disques qui hésitent à ce moment-là, qui vont tenter de minimiser la multiplication des groupes, et puis chaque major, elle essaye de tirer son épingle du jeu en signant une poignée de groupes qui correspondent aux différentes cultures musicales qui émergent à ce moment-là. Voilà. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment que de rachat ? Est-ce qu'il s'agit vraiment pour ces majors que d'offrir des perspectives à des nouvelles tendances musicales ? À mon avis, il faut comprendre que cet élan de marchandisation, au-delà des critiques que pourront formuler à son égard les groupes années 80, ce n'est pas un simple processus financier. Dick Hebdige, pour revenir à lui, il avait déjà identifié que la récupération, elle a deux formes caractéristiques. La première, c'est la forme marchandise, qui est la transformation des signes sous-culturels en objets de consommation standardisés, donc là qu'on vient de voir, mais aussi la deuxième forme de récupération, qui est la forme idéologique, qui est selon lui l'étiquetage et la redéfinition des comportements déviants par les groupes dominants, à savoir la police, la justice et les médias. La marchandisation et la traduction des sous-cultures pour les faire correspondre au mode d'appréhension dominant sont en fait deux processus qui vont de pair. La récupération idéologique, elle prépare le terrain à une récupération commerciale massive. Et la récupération, en fait, elle apprivoise et domestique la subversion en s'appropriant. Et donc on voit à quel point ici les sous-cultures, elles sont constamment traduites et travaillées par le mainstream. Mais pour donner quelques exemples, de montrer comment on va retraduire ces sous-cultures à ce moment-là en France, il y a vraiment les différents articles de presse qui vont aussi, par exemple, faire une comparaison avec 68 pour dénigrer une nouvelle jeunesse de paumée sans intérêt politique. Donc, il y a ce reportage de France 3 qu'on a aussi souvent passé aux journées d'études à Mont-de-Marsan en 77, où le reporter y commente, je le cite ici, « Ils n'ont réussi à susciter que curiosité, étonnement, indifférence parfois, peut-être aussi, aussi parfois pitié. » Donc on a vraiment ici une lecture dépolitisant le punk qui est imposée. Et aussi, on peut penser aux formes de récupération au-delà de la signature chez Major, avec l'entrée de punk, du punk dans un magazine comme Elle à travers l'intermédiaire d'Alain Pacadie, mais aussi un défilé qui est identifié comme punk de Paco Rabanne déjà en 77. Donc on touche ici à la dichotomie du punk que Matthew Worley distingue entre punk en tant qu'art d'un côté et punk en tant que commentaire social de l'autre. Et la marchandisation, elle va concentrer l'attention sur la première dimension au déprimant de la seconde. Alors le punk, à ce moment-là, réduit à une expérimentation formelle, à un déchaînement visuel, à un scandale mondain, mais en aucun cas on a un commentaire social, une critique de la société. Et si les premiers groupes punk signés sur des majors se fondent facilement à cette demande des majors, que dire du punk qui va ensuite être produit directement par les majors, avec l'exemple évidemment, avec le premier exemple que je vous ai donné, où on voit vraiment à quel point le cri devient plutôt une chanson des chants aigus, puis si on prend les paroles de Ça plane pour moi, qui sera le tube punk à ce moment-là, qui dit « Wham bam, mon chat splatch, je dis sur mon lit, à bouffer sa langue, en buvant dans mon whisky, quant à moi, peu dormi, vidé, brimé, j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. » Donc, pour prendre encore un autre exemple, si l'internet marche, il y a aussi le titre interprété par Depardieu et Bijou. D'autres candidats, je suis un vrai démocrate. J'accepte les pancartes, je suis pour les primates, pour les vignes socrates, pour le blanc d'un. Ça marche pas malheureusement, alors. J'aime celle qu'on les mêmes moines, celle qui se déshydrate, sans celle-là qui s'éclate, même de 200 watts. J'aime les couper dans l'oie, qui aime dès qu'on les batte, à qui pourrait un plat, et qui trouve sa patte. L'anglaise qui te dit what, quand tu la mets en boîte. Je suis pour celle qui en tape, lorsqu'après coupe tes marques. Je suis pour les 1000 battes, et pour les autres femmes. Donc voilà, donc on a de nouveau un peu ces mêmes traits. Donc là, c'est vraiment pour montrer de quelle façon est montré le punk dans les courants dominants. Donc là, c'était pour préciser aussi donc un film de Claude Berry, Je vous aime, donc avec le titre qui est interprété ici au Bus Palladium. Donc on voit ce qui est mis en avant, c'est vraiment le punk en tant qu'art, en tant que espièglerie, folie, et pas beaucoup de signification. Ainsi, le punk ne dit plus grand-chose de la société française et il appartient plus au punk. Et une fois vidé de ses caractéristiques propres, le punk peut être alors accommodé à toutes les sauces, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce terme il peut servir à désigner des choses très différentes. Donc là, ici, j'ai simplement tapé punk sous actualité sur Google pour voir qu'est-ce qui sortait. Et puis on a donc voilà, le dernier Benjamin Biolay qui est un punk en costume 3 pièces, ou Arthur H qui est un poète punk, et puis un truc qui date un peu plus mais que j'aime bien, qui est donc Tsipras et Varoufakis, donc les politiciens grecs qui sont des punks selon la Süddeutsche Zeitung en 2015. Donc, et c'est encore le cas pour un des éléments forts du punk, qui est le do it yourself, qui est aujourd'hui servi vraiment à tout va, qu'il s'agisse de cuisine ou de cosmétiques, ou vraiment qui désolidarise cette pratique de ce qu'était le do it yourself au début, c'est-à-dire sa philosophie poétique d'autonomie. Quoi, qui n'était pas forcément au début, mais donc ça le désolidarise de cet élément-là. Donc, et puis, donc pour l'instant, j'ai vraiment présenté la réussite que sous l'angle de pratiques avilissantes perpétrées par des industries culturelles. Mais si l'insertion dans le marché via la porte d'entrée des majors, il semble que dans ce cas-là, il semble clair qu'il y a des processus de contrôle et de normalisation, la réussite, elle peut prendre aussi un autre sens. Et c'est d'ailleurs le cas pour les groupes qui, paradoxalement, vont plutôt faire les ventes de disques les plus importantes en France, quantitativement, et elle va vraiment concerner une dynamique dominante des groupes punk des années 80, qui vont alors être en dehors des majors, du fait de leur volonté, mais aussi du fait d'un désintérêt à ce moment-là des majors, qui vont abandonner à ce moment, le rock francophone après une décennie d'échecs, à l'exception de Trust et de Téléphone. Donc, pour revenir brièvement, vu qu'il me reste plus beaucoup de temps, sur le cas des Berruriers Noirs, ici on a vraiment l'idée de rester fidèle à leurs valeurs. Je mets aussi une citation de Lorraine dans Best en 86. Nous sommes sur un label indépendant et nous bénéficions d'une entière liberté, des textes à la prise de son, les pochettes, nous les réalisons nous-mêmes. Nous n'avons aucune contrainte et il n'y a pas de contrat écrit entre nous et Bondage, juste un engagement verbal. c'est un rapport sain, les bénéfices c'est 50-50, et en plus on a un regard sur le prix des disques, le rock c'est le respect, si les berrues sont populaires, c'est parce que les gens savent que l'on se démène pour faire des entrées et les disques les moins chers possibles. Donc on voit bien ici dans cette citation qu'il y a à la fois une mise en avant des valeurs d'autonomie, de critique aussi, de la façon dont fonctionne le marché, mais en même temps une volonté de succès et d'être populaire. Donc cette volonté d'être populaire est donc une volonté d'être relativement mainstream, si on la définit comme la volonté d'être diffusée largement. Elle implique un questionnement permanent, comme quand Lauren va accepter plus tard cette année un interview à NRJ et va l'assumer totalement en disant on ne fait pas un disque pour qu'il ne soit pas passé à la radio, c'est complètement débile. Mais en même temps, pour contrecarrer toute cette possibilité de récupération, de normalisation, le groupe va répondre en éditant un dossier de presse d'une centaine de pages qui va être tiré à 500 exemplaires. Donc cette réussite choisie, elle demande à la fois une fidélité, un travail permanent, ce que les berrues vont faire via différentes publications, mais aussi un rapport différent à l'argent. On sait que les berruriers noirs, pour la plupart du temps, ils vont rester indépendants financièrement de leur activité de musicien. Voilà. Donc pour conclure, j'aimerais dire que les liens entre mainstream et punk sont toujours ambivalents, et ils l'ont toujours été. Il ne s'agit en aucun cas d'une perte d'authenticité qu'aurait connu le punk après des premières années de révolte pure. L'ambiguïté entre punk comme art et punk comme commentaire social, entre fun et no fun, entre divertissement et rébellion, elle est inscrite, à mon avis, au cœur des pratiques punk dès le départ. Et pour l'histoire du punk en France, l'existence de ces passerelles entre mainstream et alternatif, elle est presque à son apogée lors des années d'émergence. Mais les frontières restent le plus souvent floues et plus complexes. Luc et Solveig l'ont dit un peu en introduction, signer sur une major n'implique pas forcément un abandon de toute valeur, des messages peuvent continuer à passer. On peut aussi bien trouver Depardieu ridicule dans ce film qu'avoir une révélation sur ce qu'est le punk et découvrir le punk via cela. Et puis voilà, quand on pense aussi à Sa Plaine pour moi, qui aujourd'hui est jugé de façon, et a été très rapidement jugé comme une blague en France, ça va être reconnu à l'étranger comme le tube punk par excellence et va être repris par des punks anglophones, y compris extrêmement légitimes dans la scène. Et de même, des groupes qui restent sur les labels indépendants peuvent des fois passer par des majors pour être plus écoutés. C'est quand même le but de nombreux groupes d'être écoutés par le plus de gens possible. Et en plus, si on reprend ce cas du label de Cobra que j'ai mentionné plus tôt, il faut savoir que ça semble un petit label, mais en fait, c'est une filiale exploratoire de Sésame qui elle-même travaille avec Philips. Donc on peut voir que aussi le marché, avoir cette conscience-là, que le marché de la musique, il est constitué de ramifications qui fait qu'il y a des croisements très nombreux entre mainstream et indépendance. Donc mainstream, autonomie, récupération et subversion sont donc des dynamiques de lutte au sein de l'histoire du punk. Les formations, elles peuvent opter pour l'une ou l'autre de ces directions relativement, et c'est parfois un choix qui passe par une lutte cohérente et permanente, comme j'ai montré sur la fin avec les berruriers noirs. Merci.